avec Sarah Massy.
Bonjour. Les violences ne sont pas systématiques dans les centres fédéraux d'asile. Des cas isolés ont été examinés, mais dans l'ensemble, les droits fondamentaux et les droits humains sont respectés, selon un rapport demandé par le secrétariat d'État aux migrations. Une association voit le jour pour la promotion de la photographie dans le canton de Neuchâtel. Elle entend également profiter de l'arrivée prochaine des machines de l'Institut suisse pour la conservation de la photographie à la Chaux-de-Fonds pour organiser des événements. Les chemins pédestres du canton méritent un coup de jeune. Le Conseil d'État neuchâtelois a lancé au début du mois la révision d'un plan directeur. Les membres de l'association Neuchâtel Rando ont parcouru tous les itinéraires de randonnée de la région pour les analyser. La grisaille est encore de mise sur une partie du littoral. Le soleil brille ailleurs avant l'arrivée de voiles d'altitude dès la mi-journée. Parler de torture et de violence systématique dans les centres fédéraux d'accueil de demandeurs d'asile est injustifié et faux. Il y a bien eu quelques cas d'intervention disproportionnée, mais ce n'est de loin pas la règle. Le centre de requérants d'asile de Perreux était concerné. Cet employé avait été suspendu en mai en raison de possibles bavures à l'encontre de requérants. Ces conclusions émanent du rapport de l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer, présenté en fin de matinée à Berne. Ce qui ne l'empêche pas de proposer une foule de recommandations. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Ce printemps, des médias et des ONG ont dénoncé le recours à la violence de manière excessive et systématique dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. Or, selon l'ancien juge Oberholzer, il n'y a pas d'indice de violation systématique des droits des demandeurs d'asile. L'accusation de torture est injustifiée et fausse, écrit-il dans son rapport, et il l'a longuement développé ce matin. Pourtant, il y a eu 7 situations spécifiques d'intervention violente du personnel de sécurité. Dans 3 cas, c'était justifié, le demandeur d'asile était sous l'emprise d'alcool et de drogue. Dans un autre cas, il y a doute, mais dans 3 situations, l'intervention a été jugée excessive. 3 de trop, souligne le secrétaire d'État aux migrations Mario Gatticaire. La justice investigue spécifiquement. Cela ne signifie pourtant pas qu'il y a une violence systématique à l'encontre des demandeurs d'asile, reprend le juge Oberholzer. 3 cas, alors qu'il y a 2300 demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et 700 agents de sécurité. Pourtant, le même juge recommande de renforcer la formation de ces agents de sécurité. Il faudrait la porter au rang de celle de policiers, dit-il. Il est aussi demandé au SEM d'avoir davantage de son propre personnel dans les centres, de revoir les règles concernant l'usage de la contrainte, d'améliorer les processus d'établissement des rapports d'incidents. Le patron du secrétariat d'État aux migrations, Mario Gatticaire, qui prendra bientôt sa retraite, acquiesce. Des mesures ont été prises déjà et le nombre d'interventions policières et d'escalades de violence a diminué de 40%.
Il faut favoriser la visibilité et la promotion de la photographie dans le canton de Neuchâtel. Une association a vu le jour avec ce but précis. C'était fin septembre à la Chaux-de-Fonds, présidée par l'ancien chef d'entreprise et photographe amateur Marc Bloch. Elle va en premier lieu reprendre l'organisation de l'enquête photographique neuchâteloise à la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds. Mais elle veut aussi organiser des événements. Elle compte notamment valoriser le patrimoine de l'ancien Institut suisse pour la conservation de la photographie de Neuchâtel, récemment donnée à la Chaux-de-Fonds, les explications de Marc Bloch.
Malheureusement, l'Institut pour la conservation de la photographie à Neuchâtel a cessé son activité, mais Christophe Brun a fait don de toutes ses machines et tous ses appareils à la ville de la Chaux-de-Fonds. Et la ville de la Chaux-de-Fonds a décidé de remodeler les locaux de l'ancien gymnase pour installer ses machines. Et c'est pour ça que l'association va aussi s'occuper de faire des cours pour faire marcher ces machines et puis pour faire des conférences sur la photographie. C'est un patrimoine tout à fait intéressant parce que ça permet de numériser des documents photographiques, des plaques photographiques. Il y a un laboratoire d'argentique, il y a vraiment tout ce qui concerne la photographie. Et ça, ce qui sera important, c'est de le faire fonctionner.
Des propos recueillis par Léonard Reichen. Plus d'informations sur rtn.ch. Les itinéraires de randonnée du canton de Neuchâtel vont se refaire une jeunesse. Au début du mois, le canton a mis en consultation la révision du plan directeur des chemins pédestres. L'un des bénévoles de Neuchâtel Rando, Léonard Faron, a parcouru les 1078 km qui constituent le réseau neuchâtelois, avec pour objectif de pointer les tronçons à améliorer. L'essor de la randonnée ces dernières années n'est pas passé inaperçu dans certaines zones. Léonard Faron.
Ça fait plaisir de voir que les gens pratiquent ce loisir sportif qu'est la randonnée pédestre. Et ça peut être ici et là, un de rares endroits, mais disons au creux du vent, peut-être les 14 contours qui commencent à subir une usure considérable du fait de ce passage ininterrompu de promeneurs, à telle enseigne qu'il faudra mandater la commune responsable pour reprofiler ce chemin, l'arranger pour qu'il demeure, disons, bien accueillant, j'entends, pour la population.
Et donc là, c'est notamment vous, en vous baladant, vous repérez ces endroits qui posent un peu problème, puis vous le signalez aux communes concernées ?
Oui, c'est la tâche du responsable réseau, c'est de continuer de parcourir le réseau, ces fameux 1078 km, on continue de les parcourir, et puis les choses qui ne vont pas, on les signale aux communes, parce que c'est les communes qui sont responsables du bon état de l'infrastructure.
Des propos recueillis par Audrey Mondy dans la matinale. L'interview complète est à revoir en vidéo sur rtn.ch. Vous y trouverez également les randonnées coup de cœur de Léonard Faron. Fait divers dramatique dans le Seeland. Deux enfants sont morts dans un incendie survenu hier soir dans une maison à Leutingen. Quatre personnes ont réussi à échapper aux flammes. Elles ont été emmenées à l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Le discours d'un élu UDC schwitzois examiné par la police, il a été prononcé samedi à Rapperswil-Jona lors d'une manifestation des opposants aux mesures sanitaires. On ne sait pas encore si le procureur général du canton de Saint-Gall va engager des poursuites. Dans son discours, David Belair a déclaré que le Conseil fédéral a trahi le pays et que la loi martiale règne en Suisse. Il a également affirmé que la police tire sur les manifestants et qu'elle bat les femmes et les personnes âgées. L'Union européenne a exporté plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid dans l'espace de 10 mois vers plus de 150 pays. Les 27 ont notamment livré à ce jour environ 87 millions de doses aux pays à faible et moyen revenu.
12h23 sur RTN.
Sport. Un match de suspension contre Andrea Binotto. La sanction est tombée. La commission de discipline de la Swiss Football League a rendu son verdict à la suite des incidents survenus à la fin du match de Challenge League vendredi au stade de la Maladière entre Neuchâtel-Xamax et Vaduz. Les deux entraîneurs, Andrea Binotto et Mario Frick, ont failli en venir aux mains. L'entraîneur xamaxien a surréagi à la suite d'une décision arbitrale discutable et l'attitude peu fair-play de l'adversaire qui a permis à Vaduz d'inscrire le 2-0. À la suite de cette décision, Andrea Binotto devra suivre la rencontre des tribunes. Il n'est pas autorisé à se rendre dans les vestiaires. Il sera remplacé sur le banc par Sébastien Fonbonne. Le débat sur la VAR est relancé après le match d'hier entre Saint-Gall et Servette en Super League de football. L'arbitre de la rencontre a fait appel à l'assistance vidéo à plusieurs reprises. L'action qui a amené le deuxième but saint-gallois, validé après visionnage de la VAR, a notamment été très décriée. La réussite aurait, selon toute vraisemblance, dû être invalidée pour une faute saint-galloise à la récupération du ballon. La jurassienne Nicole Pétinia, ancienne arbitre international, tire un bilan sévère de l'assistance vidéo.
En Suisse, paraît-il que c'est l'arbitre qui demande la VAR. Donc c'est complètement ridicule, puisque si moi j'arbitre puis je vois pas de faute qu'il faudrait peut-être demander à la VAR, eh ben je le demande pas. Tandis qu'à l'Euro, c'était la VAR qui venait. Et puis les gens qui sont de la VAR, on les voit pas avant le match, ils sont pas à côté du match, ils sont pas dans le stade. Et je trouve complètement débile de les mettre à Zurich. Alors qu'avant le match, on doit pouvoir discuter avec ces gens, leur dire, écoutez, Saint-Gall est à cette place-là, Genève est à cette place-là, qu'est-ce qu'on devrait voir ensemble? On n'analyse pas profondément tout le match avant. Avant, moi, en tant qu'arbitre, j'analysais un peu les positions, j'analysais les entraîneurs, j'analysais pour un petit peu justement dire à mes assistants, attention, lui, il est toujours hors jeu, ou bien lui, il est toujours en train de faire des fautes un peu méchantes ou des trucs comme ça. Donc, le truc, c'est là, ça ne joue pas du tout. Même à l'Euro, ça n'a vraiment pas joué. Normalement, la VAR, ça doit être un soutien. Là, ça fout complètement en l'air le jeu.
Et retrouvez une vidéo de l'action litigieuse soumise à la VAR dans la rencontre entre Saint-Gall et Servette sur rtn.ch. L'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin approche à grands pas. La nouvelle saison de compétition commence ce week-end. Le premier slalom géant féminin de la saison est programmé samedi sur le glacier autrichien de Sölden. Il sera suivi dimanche par le géant masculin. Chez les hommes, Loïc Meillard figure dans la liste des coureurs retenus par Swiss-Ski pour ce prologue de l'hiver. La sélection féminine n'a pas encore été dévoilée, mais Mélanie Meillard devrait en faire partie. Enfin, en tennis, c'est officiel depuis aujourd'hui. Roger Federer ne figure plus dans le top 10 du classement mondial. Le Balois recule de 2 rangs pour se retrouver 11e. Novak Djokovic est toujours numéro 1, tout comme l'Australienne Ashleigh Barty chez les dames. Belinda Bencic gagne une place, elle est 9e.